Lundi 13 juin, l'info sur RMC. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC.
Il est 6h, bon réveil à tous sur RMC, les toutes dernières informations avec Raphaël Duchemin. Bonjour Raphaël.
Bonjour à tous. Première comparution après les violences à Marseille. L'UEFA menace de disqualifier l'Angleterre et la Russie en cas de nouveaux incidents. Une tuerie de masse à Orlando, en Floride, dans un club gay. 50 morts, 53 blessés. Le FBI connaissait le tireur. Et puis changer la politique, oui mais comment? Vous avez répondu, sondage est là pour RMC. Qu'on vous dévoile ce matin. La Russie et l'Angleterre sous la menace d'un carton rouge. Après les affrontements survenus à Marseille, les organisateurs de l'Euro 2016 avertissent. Aux prochaines violences, la disqualification sera envisagée. Cela va-t-il calmer les pseudo-supporters venus plus pour en découdre que pour voir les matchs? Une chose est sûre, certains vont devoir s'expliquer dès aujourd'hui. Léa Zakari devant la justice en comparution immédiate.
En tout, ce sont 10 personnes qui ont été arrêtées dans la nuit de samedi à dimanche. Parmi elles, 5 vont être jugées cet après-midi. 3 Anglais, 1 Autrichien et 1 Français. 2 autres, des supporters russes, ont reçu une obligation de quitter le territoire. D'après le ministère de l'Intérieur, ils n'étaient pas connus des services de renseignement et de police, que ce soit en France ou même dans leur pays. Quant à ceux qui n'ont pas été interpellés, ils sont rentrés chez eux sans être inquiétés par les forces de l'ordre. C'est le cas de Vladimir. Dans une interview donnée à l'AFP, ce père de famille de 30 ans raconte avoir fait l'aller-retour Moscou Marseille en 48 heures pour voir le match contre l'Angleterre, mais surtout pour affronter des supporters britanniques et démontrer, dit-il, que les Anglais sont des fillettes. Armé de ses seuls poings, Vladimir dit se battre pour le sport et pour l'honneur et prévoit déjà de revenir en France si la Russie arrive en finale de l'Euro.
Et hier, ce sont des hooligans allemands qui ont été stoppés net avant leur arrivée en France. Sur eux, des protège-dents et des casques ont été retrouvés. Pour éviter ces débordements, l'intérieur a aussi renforcé dès hier les mesures concernant la vente d'alcool dans les périmètres dits sensibles, les veilles et jours de match. Mais pour Yves Morenne, président du groupe Les Républicains à la mairie de Marseille, ça ne va pas suffire.
C'est étendu au centre-ville, c'est bien, mais d'abord c'est difficile à contrôler sur des périmètres qui sont larges, ça n'interdit pas aux Anglais ou aux autres de venir avec des packs de bière depuis leur pays ou de les acheter dans des villes à côté, donc faut pas croire que ça va tout régler. Ce qui doit permettre de tout régler, c'est une meilleure lutte contre ces sauvages, agressifs et alcoolisés qui ont saccagé la ville de Marseille et l'image de Marseille. On a vu quand même sur le Vieux-Port que c'était l'affaire de 200-250 sauvages, et je pense que cela, eh bien, il va falloir à un moment trouver des solutions plus brutales, les encercler et les sortir du milieu.
Et à Marseille, le prochain match à risque, ce sera le 21 juin, Ukraine-Pologne. Avant cela, il y a aussi Allemagne-Pologne le 16 au Stade de France. Et le même jour, Angleterre-Pays-Bas, ça se passera à Lille. 6h03 sur RMC, RMC Découverte. A-t-il vraiment prêté allégeance à Daesh? En tout cas, cette nuit, l'État islamique, via une de ses radios, a revendiqué l'attaque d'Orlando dans une boîte gay. La tuerie a fait 50 morts, 53 blessés. Et le FBI confirme que le tireur, Omar Sedik Maten, avait bien été identifié. Philippe Gasso, est-ce qu'on en sait plus sur lui et aussi sur ses motivations?
Eh bien, on sait qu'il a 29 ans, qu'il est d'origine afghane, qu'il est né à New York. Il a décidé, au moment où les gay prides sont partout en ce moment, de faire un massacre. Il est divorcé et considéré comme violent par son ex-femme. Le FBI avait enquêté sur lui en 2013 et 2014 pour radicalisation et n'avait rien trouvé. Il était aussi agent de sécurité et par son statut, il avait pu acheter toutes les armes qu'il souhaitait. On a affaire à ce qu'on appelle un loup solitaire. C'est ce que redoute le FBI et le cauchemar des services secrets américains, car cela ne bouge pas, ne voyage pas depuis l'étranger, ils sont quasiment impossibles à neutraliser. Omar Maten voulait sans doute faire un exemple sur ce que l'islamisme radical est le plus, à savoir l'homosexualité et la dépravation de l'Occident. Les loups solitaires ne sont pas repérables, ils sont souvent très déterminés, c'est ce qui inquiète l'Amérique et le monde.
Philippe Gasso, correspondant d'RMC à Washington, et dans le même temps, une autre attaque a aussi été évitée de justesse. À Los Angeles, cette fois, un homme a été arrêté avec un véritable arsenal. Il a déclaré aux autorités qu'il voulait faire des dégâts pendant la Gay Pride. La CGT promet une mobilisation énorme. Demain, grosse manif avec un mot d'ordre, tous à Paris contre la loi travail. Une démonstration de force comme nous n'en avons jamais connue depuis 4 mois, assure Philippe Martinez. En attendant, eh bien, la grève continue et le texte, lui, poursuit son chemin parlementaire. Aujourd'hui, c'est donc au Sénat qu'il va être réécrit. Il faut s'attendre à un vrai coup de barre à droite, Stéphanie Collier.
Oui, le texte version Sénat acte tout d'abord la fin des 35 heures en donnant la possibilité aux entreprises de revenir aux 39 heures hebdomadaires en l'absence d'accord d'entreprise ou de branche. On va au bout de la logique de la loi travail telle qu'elle avait été écrite au départ, explique un sénateur Les Républicains. C'est ainsi que le texte, dans sa version sénatoriale, rétablit par exemple le dispositif qui permet aux salariés de travailler jusqu'à 48 voire 60 heures par semaine en cas de circonstances exceptionnelles. Ce dispositif avait été inscrit dans la première mouture de la loi El Khomri avant d'être écarté par le gouvernement. Nous ne sommes pas dans la caricature de la politique de droite, met en garde un sénateur qui insiste sur les avancées, selon lui, du texte pour les salariés. Le Sénat propose par exemple qu'ils soient mieux associés aux résultats financiers des entreprises lorsqu'ils sont bons. Conclusion d'un sénateur Les Républicains, un brin amusé. Notre projet est prêt pour maintenant ou pour 2017.
Et pour 2017, justement, vous voulez que ça bouge ?
RMC, objectif 2017, ce que veulent les Français.
Et ce qu'ils veulent, eh bien, c'est que la manière de faire de la politique change pour réconcilier électeurs et élus. On vous a demandé avec Elab ce que vous voudriez voir évoluer ou disparaître. 10 propositions qui rencontrent un vrai plébiscite, Claire Checaglini.
Dans le trio de tête des propositions approuvées par les Français, la réduction d'un tiers du nombre de députés et de sénateurs, le fait de rendre incompatibles les mandats de parlementaires avec d'autres fonctions électives, enfin, troisième proposition, l'obligation de démissionner de la fonction publique une fois élue. Et ces trois suggestions sont plébiscitées puisqu'elles recueillent respectivement 89, 88 et 86% d'avis favorables. Il n'y a d'ailleurs quasiment pas de différence selon les préférences partisanes et les catégories socioprofessionnelles. L'instauration d'une limite d'âge fixée à 75 ans pour être élu est aussi approuvée par plus de 80% des sondés et les plus frileux sur cette question sont les plus jeunes. Les 18-24 ans ne sont que 62% à y être favorables contre 88% pour les 65 ans et plus.
Vous ne la verrez pas sur les panneaux d'affichage traditionnels. Une campagne de Médecins du Monde est lancée aujourd'hui. Objectif dénoncer les prix des médicaments et la manière dont les tarifs sont fixés. Mais elle a été jugée trop incisive pour être affichée. Pour l'association, c'est donc une forme de censure. Le docteur Jean-François Corti est très clair là-dessus.
C'est presque de la censure. On nous a potentiellement reproché que cette campagne était trop incisive, qu'elle pouvait induire des doutes, nuire à l'image du laboratoire pharmaceutique. Il y a manifestement un tabou. Il est quasiment impossible de parler de la manière dont les autorités fixent le prix des médicaments avec les laboratoires pharmaceutiques. Nous dénonçons les insuffisances des autorités françaises qui devraient pouvoir casser les brevets et faire en sorte que des médicaments génériques puissent pénétrer notre marché, ce qui n'est pas fait. Faire payer aux Français des traitements qui valent 400 fois leur coût de production, c'est cela que nous voulons dénoncer.
Jean-François Corti avec Romain Poiseau, 6h08 sur RMC.
RMC numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016.
Et bonjour Louis Amar.
Bonjour Raphaël.
L'Allemagne assure pour ses débuts dans l'Euro.
Avec sérieux mais sans génie, la Mannschaft a battu l'Ukraine hier soir 2-0. Le score est net, mais il traduit mal l'impression générale d'un match au cours duquel, Jean Rességuier, les Allemands ont été mis en danger.
On retiendra tout simplement que les champions du monde ont remporté ce premier match face à une équipe d'Ukraine très prudente et très certainement en manque d'ambition. Un but dès la 19e minute, certes, et rien d'autre. Pire, Konopianka à quelques centimètres d'égaliser en fin de première période, si Boateng ne sauve pas devant sa ligne. Une défense allemande en difficulté à plusieurs reprises, obligeant Neuer à montrer tout son talent et des attaquants en manque d'inspiration et parfois même très maladroits. Mais malgré tout cela, la Mannschaft s'est peut-être rassurée avec cette victoire et les supporters retiendront très certainement le but de Schweinsteiger dans le temps additionnel. 117 sélections, un monument longtemps blessé depuis mars dernier et qui, du haut de ses 30 ans, a couru comme un junior pour fêter son but avec tous les remplaçants.
Et l'Allemagne est donc en tête de la poule C à égalité avec la Pologne qui a battu l'Irlande du Nord 1-0. 1-0, c'est également le score de la victoire croate face à la Turquie. 3 matchs à suivre aujourd'hui, 3 matchs et en point d'orgue, le premier vrai choc de la compétition. L'Italie, finaliste il y a 4 ans, affronte à 21h la Belgique, l'un des favoris. Le sélectionneur Mark Wilmots, c'est bien l'attente suscitée par son équipe.
Il y a un peuple qui s'est rassemblé, il y a une communion qui s'est faite, il y a des résultats qui sont là, il y a une équipe qui joue avec ses tripes, il y a une équipe qui joue avec de la qualité, et qu'on peut rien leur reprocher, je pense que le public, il adore ça. Pour moi, ça, c'est la plus belle chose, si je vois des enfants qui remettent le maillot de l'équipe nationale, qui sont tellement fiers d'avoir une génération comme ça, et ça, c'est... Ça va rester à vie. Ça partira jamais. Même si on est éliminé au premier tour de l'Euro, on ne saura pas nous l'enlever.
Marc Wilmots avec Jean Baumel. À suivre également les débuts de l'Espagne, double tenant du titre face à la République tchèque à 15h. Ceux de Zlatan avec la Suède face à l'Irlande à 18h. Tout cela à suivre en direct sur RMC Intégral Euro 2016 jusqu'à minuit. Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour Louis. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Ça va Louis ?
Ça va très bien.
Bon. Charles Magnin, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Simple comme bonjour. Vous avez pas mal de messages, j'imagine, Charles.
Et notamment
sur l'actualité
foot,
qui est extrêmement riche autour du foot, autour des violences autour du foot. Et Orlando, aussi, la tuerie d'Orlando, nous allons y revenir, évidemment. RMC, c'est la radio, vous connaissez. RMC Découverte, le canal 24 de la TNT. Vous avez l'habitude, maintenant, de regarder la radio. 3216rmc.fr, le hashtag Bourdin Direct pour intervenir. Le temps se mène encore... très agité, sauf au bord de la Méditerranée, nous dira Géraldine Demory. Orlando, donc au moins 50 morts. Attention, attention à la piste terroriste, ce n'est peut-être pas ça. Il faut être extrêmement prudent, c'est le FBI qui le dit. Il aurait, le tueur, prêté allégeance à l'État islamique peu de temps seulement avant le massacre. Il aurait été ulcéré. C'est son père qui raconte de voir deux hommes s'embrasser dans la rue. Il était avec son enfant. Il aurait été ulcéré. Vous savez qu'il l'a tué dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit fréquentée par des homosexuels. À Orlando, donc en Floride, évidemment, ça a des conséquences sur la campagne électorale aux États-Unis. Nous serons en direct avec les États-Unis tout au long de cette matinée. De quoi allons-nous parler encore ? Nous allons revenir, évidemment, sur les violences pendant l'Euro. La presse anglaise s'en prend à l'organisation de l'Euro. Interdiction de vendre de l'alcool, réplique le ministre de l'Intérieur français dans les magasins autour des zones sensibles. Et puis, menace de disqualification des équipes anglaises et russe, on en parle ce matin. Vous étiez à Marseille, peut-être, samedi. Racontez-nous comment ça s'est passé. Il fallait prouver que les Anglais ne sont que des fillettes, explique Vladimir, qui était un hooligan russe, par ailleurs responsable de relations publiques, des relations publiques d'une grande entreprise de Moscou, marié, deux enfants. Il a fait le voyage uniquement pour frapper des Anglais. Il le dit. Nous en parlerons ce matin. Et puis, notre opération Objectif 2017, ce que veulent les Français en matière de politique, sondage Elabe, les personnes interrogées souhaitent une limitation du nombre des parlementaires, un âge plafond pour se présenter à une élection, 15 ministres pas plus et l'arrêt du cumul des mandats. Henri Guénaud sera notre invité tout à l'heure, 8h35, 9h. Il est 6h12, vous ne ratez rien, vous êtes sur RMC à 6h12, nous partons pour Marseille. Les violences de ce week-end ont entraîné un débat évidemment sur la consommation excessive d'alcool par les supporters et notamment par les supporters anglais. Le gouvernement a réagi en demandant au préfet donc d'interdire la vente d'alcool à emporter, j'ai bien à emporter, dans les périmètres sensibles, c'est-à-dire dans les magasins, la vente d'alcool dans les supérettes, tout en permettant aux cafetiers de continuer à en vendre en terrasse, dans des verres en plastique. À Marseille, cela concerne déjà les abords de la fanzone et du stade Vélodrome, mais cela devrait aussi concerner le Vieux-Port et les rues qui entourent le Vieux-Port. Les restaurateurs touchés par ces violences ont rencontré le préfet de police hier lors d'une réunion sur la sécurité et ils sont très inquiets. Lionel Dian.
Oui, ce sont des restaurateurs traumatisés qui se sont adressés au préfet de police, à l'image de Sylvie.
Là, franchement, les clients se sont fait massacrer alors qu'ils étaient en train de manger. Ils n'avaient rien à voir avec l'histoire. Et ça a duré trois quarts d'heure au moins, avant qu'il arrive une équipe de policiers.
Bon, non. Une rixe de trois quarts d'heure, c'est pas possible. On est intervenu sur toutes les rixes.
Ça a paru très, très long. Hein. Et c'était impressionnant. Les femmes nous tapaient à la porte. Il y avait des gens qui arrivaient de je sais pas trop d'où, en pleurs. Ils nous tapaient à la porte pour les sauver, pour les faire rentrer. Il n'y avait pas de sécurité. Je suis désolé, mais franchement, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait ?
Des restaurateurs pas suffisamment rassurés non plus par la mesure d'interdiction de vente d'alcool à emporter que le préfet Laurent Nunez va faire appliquer sur le Vieux-Port dans les prochains jours.
Cette mesure est une mesure parmi d'autres. Elle n'a pas vocation à se substituer à l'important dispositif policier qu'on continuera de mettre en place.
Il y aura des renforts par rapport à ce qui s'est passé ?
Vous savez, on avait déjà un dispositif qui était très, très renforcé, donc on verra comment on articule le dispositif en fonction du risque que nous aurons.
Et des risque justement, Bernard Marty, secrétaire de l'Union des hôteliers-restaurateurs, demande que désormais, on en prenne le moins possible.
L'urgence du jour, c'est d'avoir un message qui rassure l'ensemble de notre ville, parce que il faut faire revenir les populations, parce que plus personne ne vient à Marseille. Moi, j'ai un restaurant, mais c'est zéro réservation ce soir. Zéro. Dans un mois où, justement, on devrait en avoir.
Les inquiétudes se focalisent désormais sur d'éventuels nouveaux débordements lors d'Ukraine-Pologne le 21 juin prochain à Marseille, jour de la fête de la musique.
Vous êtes Marseillais, allez-y, vous nous appelez 3216rmc.fr. Je vais prendre Alain, qui est justement Marseillais, qui était samedi sur le Vieux-Port, qui va nous raconter. Vous étiez samedi sur le Vieux-Port, plus que jamais, nous vous écoutons. 3216rmc.fr. Et puis le hashtag Bourdin Direct, évidemment. Vous avez beaucoup de messages sur le sujet, j'imagine.
Par exemple, Thierry, qui nous écrit, oui. Je suis un ex-hooligan, j'ai tout arrêté depuis 10 ans, mais je ne suis pas du tout surpris par ce qui s'est passé ce week-end. Il ne faut pas jeter la pierre aux Anglais. Pour moi, ce sont les Russes qui sont venus uniquement dans l'intention de se battre, et certainement pas pour assister au match, nous écrit Thierry.
Et il est 6h15, merci d'être là. À tout de suite dans 2 minutes avec toute l'équipe. Pauline Baduel, Mathieu Rouault,
bonjour.
Vous allez bien ce matin?
Très bien.
Ça va très bien.
Qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux, vous, Mathieu?
Je sais pas, il y a un truc mouton.
Effet saut du livre. Il est 6h16 minutes, à tout de suite.
RMC, 6h10, Bourdin Direct. Avec RMC, vous ne ratez rien de l'actualité.
6h18, Alain, tout de suite témoigne. Bonjour Alain.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Vous étiez sur le Vieux-Port samedi, Alain ?
Oui, j'étais sur le Vieux-Port. Là, je déambulais là entre les Catalans et puis la rue de la République. Là, donc j'ai assisté à la fête qui avait démarré en fin de matinée. Et effectivement, il y avait beaucoup de monde, anglais, russe, qui picolait tout le long des bars. Là,
oui.
Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et d'un seul coup, du côté du miroir, là où tout le monde se met un peu à l'abri, là ce qu'on voit en ce moment, là, y a toute une troupe de Russes qui sont arrivés, qui apparemment n'étaient pas des footeux, hein, ils avaient même pas de maillot de leur équipe, et ils sont allés directement vers le cours Etchendorf, là où tous les affrontements ont commencé.
Oui. Ils sont allés cogner des Anglais.
Oui, au nez à la barbe des CRS, parce que j'étais juste là, et les CRS les ont vus passer. Tout le monde savait ce qui allait arriver. Jusqu'à présent, il n'y avait eu aucun incident, hein. aucun. Jusqu'à 16h30, tout se passait bien. Et ensuite, c'était la catastrophe, quoi. Voilà, ça ne s'est plus arrêté pendant plus d'une heure.
Oui, pendant plus d'une heure. Ouais. Ah. Oui, je regardais le témoignage de ce Russe qui, j'en parlais tout à l'heure, qui est responsable des relations publiques dans une grande entreprise de Moscou et qui a dit, nous avons pris l'avion, nous étions 4 à 500 pour casser de l'anglais. Pour casser de l'anglais, nous n'avions même pas de place au stade.
C'est exactement ça. Ça image bien ce que j'ai vu là-bas. Ce que je regrette un petit peu, c'est que quand même les CRS les ont vus passer. Ils avaient le casque à la main. Une fois qu'ils étaient passés, ils ont mis tranquillement leur casque et ils sont allés intervenir. Ils sont passés devant eux. Ils auraient pu les arrêter à ce moment-là. Ils n'étaient qu'une cinquantaine. Il y avait un autre groupe qui arrivait vers le quai des Belges. Je pense qu'ils auraient pu intervenir. Puis ils sont intervenus une fois que l'affrontement avait commencé.
Ouais. Merci Alain.
Et pas assez nombreux, bien sûr.
Oui, merci Alain.
De rien.
Merci. Au revoir Alain. Merci. Vous étiez témoin aussi samedi. Allez-y. 3216rmc.fr. Bien. Notre tour de table, Pauline Baduel. Deux îles d'Estonie. Là, c'est plus pacifique. Hein. Deux îles d'Estonie règlent leur compte au tir à la corde. Russes et Anglais. Très bien de faire la même chose.
Oui, je vous emmène sur l'île d'Iuma et de Saaremaa dans le détroit de la mer Baltique. C'est deux petites îles. Hein. 500 habitants sur l'une, 600 sur l'autre. Après un siècle de guéguerre, elles ont enfin trouvé un moyen de régler leurs différends. Ces fameux tirs à la corde géants, vous imaginez les habitants aux deux extrémités de cette corde qui faisait plus de 10 km de long. Ils ont tiré dessus. La corde traversait l'océan quand même.
500 d'un côté, 600
de l'autre. Et à votre avis, qui a gagné ? Personne, parce que la corde a cassé au bout de 10 minutes. C'est raté,
la corde a cassé. Un garde britannique fait un malaise pendant l'anniversaire de la reine Elisabeth.
C'est l'une des images de ce week-end d'un ce garde britannique
allongé
au sol, la tête dans les graviers. Il a fait un malaise sans doute dû à la chaleur, mais comme le règlement interdit à ses compères de lui porter secours, eh bien il va rester à terre pendant plusieurs minutes. Le cortège lui marche même dessus. Certains essayent de l'éviter, mais on voit bien qu'ils ont peine à sortir du rang. Et quand les troupes ont pris place, reste ce garde allongé, la tête donc dans les graviers, inconscient, et les autres gardes impassibles.
C'est incroyable, incroyable. Il tombe, les autres ne bougent pas.
C'est interdit.
Ça devient ridicule, non, qu'il lui passe tous dessus à côté sans le faire regarder. Enfin,
bon. C'est comme ça.
Bien, il est 6h22. Pauline Baduel, le rappel des titres de l'actualité, Pauline.
Le pire attentat aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001, 50 morts et 53 blessés. Après cette fusillade dans une discothèque gay d'Orlando en Floride, le suspect abattu était un Américain de 29 ans d'origine afghane, homophobe avec un passé violent. Le groupe État islamique revendique une responsabilité dans cette attaque. Une enquête est ouverte pour acte de terrorisme. L'alcool interdit dans les zones les plus sensibles lors des prochains matchs de l'Euro. Le gouvernement serre la vis après les violences ce week-end à Marseille. 35 blessés, 10 personnes en garde à vue, elles risquent d'être expulsées. L'UEFA hausse le ton aussi et menace la Russie et l'Angleterre de disqualification en cas de nouveau débordement. Sur le terrain, la Croatie a battu la Turquie 1-0 hier, c'était au Parc des Princes. La Pologne s'est imposée sur le même score face à l'Irlande du Nord et l'Ukraine s'est inclinée 2-0 face à l'Allemagne.
Géraldine Demory, le temps. Bonjour Géraldine.
Bonjour Jean-Jacques.
Nous sommes en Corse du Sud à la Parata.
On est à la toute pointe d'Ajaccio, c'est un des coins les plus protégés de Corse et il sera peut-être labellisé Grand Site de France. En tout cas, c'est ce que souhaite Ségolène Royal qui était sur place hier. Et à la Parata, à Ajaccio, il fait très beau effectivement aujourd'hui. Sur la Corse, c'est un des seuls coins où on aura du soleil, la Côte d'Azur également, mais partout ailleurs, un temps gris avec des averses orageuses particulièrement fréquentes vers le Massif central, vers la région Rhône-Alpes. Le tout avec des températures très fraîches pour la fraison. La saison 18 degrés à Paris, 28 quand même pour Marseille.
RMC, objectif 2017, ce que veulent les Français.
Oui, ce que veulent les Français, c'est notre sondage Elab. Chaque mois, depuis le début de l'année, nous allons chercher des solutions auprès de vous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à vos propositions pour changer le monde politique. On en a besoin. Mathieu Roux, pas de doute, selon notre sondage Elab, les Français veulent que ça bouge.
Et ça passe d'abord par une réduction drastique du nombre de parlementaires, 400 députés, 200 sénateurs. Interdiction pour eux de cumuler avec un autre mandat électif. Si ce parlementaire est aussi haut fonctionnaire, il devra démissionner de la fonction publique. Il ne pourrait pas non plus faire plus de 2 mandats consécutifs. Dans l'élection des députés, on introduirait une dose de proportionnelle. Il y aurait aussi une limite d'âge pour se présenter à une élection, 75 ans. Et pour ce qui est du gouvernement, les Français voudraient 15 ministres autour du président, pas plus. Toutes ces propositions sont approuvées par plus de 8 Français sur 10.
Qu'en pensez-vous ? Personnellement, je les approuve. Ça me paraît fort bien. D'autres propositions, créer un peu plus de débats au sein des Français interrogés par l'Institut Elab, mais n'en sont pas moins intéressantes.
Le vote obligatoire, comme en Belgique, 50% y sont favorables. Un président élu pour 7 ans, mais sans possibilité de se présenter à un second mandat, 54% des Français sont pour. En revanche, deux propositions recueillent l'approbation de plus de 6 sondés sur 10. Instaurer un ticket présidentiel avec le nom du président et du Premier ministre connu à l'avance, et puis établir la possibilité d'expérimenter une loi à l'échelle locale avant de l'appliquer au niveau national.
Il est 6h26, Pauline Baduel. Les Turcs sont les supporters prêts à faire le plus de concessions pour voir leur équipe gagner l'euro.
C'est le résultat d'une enquête européenne. La moitié des Turcs sont prêts à donner 3 jours de leur salaire contre l'assurance de voir leur équipe rentrer avec la coupe quand même. 3 jours, c'est pas mal. Abandonner un mois son téléphone portable. Un Turc sur deux y est prêt. Aussi, pour voir la Turquie gagner, c'est devant les Roumains, les Polonais. Nous, par exemple, on n'est pas du tout prêt à donner notre salaire, je vous le dis tout de suite. On est dernier du classement. Les aficionados turcs sont également les premiers pour tout ce qui est Paris. Et oui. Et l'enquête révèle aussi que les femmes turques sont très, très impliquées dans ce tournoi. En tout cas, 94% d'entre elles affirment soutenir leur équipe ardument.
La Turquie qui a perdu son premier match, contre la Croatie. En Grande-Bretagne, c'est mal parti. En Grande-Bretagne, la mascotte de l'Euro est aussi un sextoy, Charlemagne.
Vous connaissez Super Victor, ce petit garçon avec une cape.
Je l'ai même pas vu. Ah bon, c'est lui, c'est la mascotte de l'Euro.
On a longtemps hésité, est-ce qu'on devait l'appeler Driblou ou Super Victor. C'est finalement
Driblou.
Non, finalement, c'est Super Victor, Jean-Jacques. On l'a tranché il y a des mois. Il s'appelle Super Victor. Problème. En France, il n'y a pas de problème. Vous voulez acheter Super Victor, vous tapez Super Victor sur Google, vous l'achetez. En Grande-Bretagne, quand vous tapez Super Victor sur Google, vous tombez sur des modèles de sextoy. Et donc, forcément, quand vous voulez acheter une peluche pour le petit dernier, ça ne le fait pas trop. L'UEFA précise que ce n'est pas elle qui fabrique et commercialise les jouets érotiques et qu'ils étaient là bien avant l'euro et le choix du nom de Super Victor.
Il est 6h28, la machine à café 32-16, la touche 6 pour la gagner. Le gagnant ou la gagnante avec nous à 7h05 tout à l'heure. 6h28, Mathieu Rouault.
Vous jouez aussi par SMS au 7-32-16 avec le mot matin.
Et nous allons revenir sur la tuerie d'Orlando juste après le journal, n'est-ce pas Charles?
Avec notre correspondant sur place, Philippe Gassot, qui sera en direct à 6h40 sur RMC.
Bourdin Direct, RMC tout en direct. RMC, Bourdin Direct.
Il est 6h31 et Chloé Cambrelin est là pour les dernières informations. Chloé, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Le cauchemar aux États-Unis, 50 morts dans une discothèque gay de Floride. C'est la pire fusillade de l'histoire du pays. Le lien direct avec Daesh n'est pas établi. Changer la politique, dernier volet d'objectif 2017. Ce que veulent les Français, la réduction du nombre de parlementaires plébiscités, tout comme le non-cumul des mandats. 50-50 pour le vote obligatoire qui lui fait toujours débat. Et puis supporter ou bachoter, certains ne choisissent pas. À deux jours de l'épreuve de philo, les élèves de terminale révisent parfois devant l'euro. RMC 6h31, bonjour à tous. L'Empire State Building éteint l'antenne du World Trade Center arc-en-ciel New York, comme l'ensemble des États-Unis, sous le choc. Après le pire attentat survenu sur le sol américain depuis septembre 2001, 50 personnes tuées dans une boîte de nuit gay d'Orlando en Floride. Nous ne tomberons pas dans la peur, s'est empressé de réagir le président américain Barack Obama.
Nous déplorons la perte de douzaines d'innocents qui ont été massacrés. Nous prions pour les familles qui ont le cœur brisé et qui cherchent des réponses. Nous sommes aux côtés de la population d'Orlando. Une attaque terrible s'est déroulée dans leur ville. L'enquête débute, mais on peut dire qu'il s'agit d'un acte de terreur et de haine. Nous sommes unis dans la tristesse, l'indignation, mais aussi dans la détermination à défendre notre peuple.
Le tireur qui a été abattu s'appelait Omar Mateen. C'est un Américain de 29 ans, d'origine afghane. Il avait été plusieurs fois interrogé par le FBI pour ses sympathies présumées avec l'islamisme radical, mais sans suite. Daesh a revendiqué la responsabilité de l'attentat, mais selon les autorités, rien ne prouve à ce stade qu'il y ait eu des liens directs entre Omar Mateen et l'État islamique. Acte de terreur, acte de haine, dit Barack Obama. C'est une boîte de nuit emblématique de la communauté homosexuelle qui a été visée en plein mois de Gay Pride aux États-Unis. Plusieurs rassemblements ont eu lieu hier soir à l'initiative d'associations, notamment à Paris. La dimension homophobe ne fait aucun doute pour Flora Bolter, coprésidente du centre LGBT d'Île-de-France.
Une attaque sur un club gay, c'est quand même pas innocent. Nous n'allons pas nous cacher, dire « Ah mon Dieu, j'ai peur ». Nous allons honorer les personnes qui sont mortes. Nous allons montrer notre solidarité parce que nous sommes humains d'abord. C'est peut-être dérisoire, mais c'est quelque chose qui nous permet de rester nous-mêmes et de garder notre vision de la société et nos valeurs d'ouverture, de progrès, de respect.
Et nous serons en direct avec le correspondant des RMC aux États-Unis juste après ce journal. L'enlèvement de Chloé en procès à partir d'aujourd'hui. Chloé Rodriguez avait 15 lorsqu'elle a été kidnappée devant chez elle dans le Gard en novembre 2012. L'adolescente avait été retrouvée 7 jours plus tard dans le coffre d'une voiture en Allemagne. L'homme soupçonné de l'avoir enlevée, séquestrée et violée venait à l'époque de sortir de prison. Il avait été condamné pour agression sexuelle, Aurélia Manoli.
Kamel Bousla est en liberté depuis 2 mois lorsqu'il croise par hasard la jeune Chloé qui circule seule à scooter. Il la suit jusqu'à son domicile et l'enlève, pris d'une pulsion, explique-t-il. Pendant une semaine, à bord d'une voiture volée, il passe par l'Italie, l'Est de la France puis l'Allemagne sans but précis, cachant la jeune femme dans le coffre pour passer les frontières. Poursuivi par la police allemande qui le recherche pour vol, il a un accident de voiture en Allemagne. Chloé sera alors retrouvée enfermée dans le coffre. Elle affirme avoir subi plusieurs viols. Elle décrit un homme parfois menaçant, parfois gentil. Lui explique avoir recherché quelqu'un qui lui appartienne, qu'il pouvait dominer comme il voulait. Déjà condamné pour plusieurs agressions sexuelles, en 2007, il avait échappé à sa sortie de prison à son suivi judiciaire. Son dossier n'avait pas été transmis à temps et son adresse personnelle pas vérifié.
Et le procès s'ouvre donc ce matin devant les assises du Gard. Il doit durer jusqu'à mercredi.
RMC, objectif 2017, ce que veulent les Français.
quelles idées, quelles réformes depuis le début de l'année. RMC vous donne la parole sur vos attentes avant la présidentielle. Et pour ce dernier volet, une grande question, comment changer la politique? Parmi les 10 propositions soumises par l'Institut ELAB, celle qui recueille le plus de soutien est la réduction du nombre de parlementaires. 89% des sondés seraient favorables. Presque 9 Français sur 10 soutiennent aussi l'interdiction de cumuler un mandat parlementaire avec une autre fonction élective. En revanche, le vote obligatoire sous peine d'amende ne convainc qu'à moitié, 50% pour, 50 contre. Pour aider à se faire une opinion, Anaïs Denet est allée à Bruxelles, puisque les Belges, eux, sont obligés de voter.
En Belgique, à chaque élection, ça tourne autour de 90%. Un taux de participation à faire rougir les Français. Alors quoi, les Belges se passionnent-ils plus pour la politique? Pas si sûr.
C'est plus un réflexe, j'y vais parce que ma famille y va.
Depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je vais voter juste parce que je suis obligée. Je m'intéresse pas spécialement hyper fort à la politique.
123 ans qu'il est obligatoire, ce vote. Un réflexe culturel bien plus qu'un intérêt pour la politique. Même Christine Dufresne, la présidente du Sénat belge, l'admet.
Le citoyen belge n'est pas plus proche de sa classe politique et n'a pas nécessairement plus de conscience politique ou d'envie d'aller voter.
Ce vote obligatoire a tout de même un avantage pendant les campagnes électorales. C'est Pascal Deluy, professeur de sciences politiques à Bruxelles, qui nous l'explique.
Les partis et les candidats font campagne auprès de tous les électeurs et pas simplement parmi les groupes sociaux qui votent le plus.
D'après les derniers sondages, un Belge sur deux serait aujourd'hui favorable à la fin du vote obligatoire.
La loi travail arrive aujourd'hui au Sénat, la veille d'une nouvelle journée d'action. La grève continue à la SNCF, même si ça va un peu mieux. Avec 9 TGV sur 10 sans circulation, 7 TER sur 10, 60% des intercités, la moitié des transiliens. 35 personnes blessées, dont 4 grièvement. Bilan des violences de samedi à Marseille, avant et après le match Angleterre-Russie. 5 personnes jugées en comparution immédiate aujourd'hui. Comment en est-on arrivé là, Claire Andrieux? On parle beaucoup d'alcool, mais d'autres explications peuvent être mises en avant.
Eh bien d'abord, la présence des hooligans russes a été peu anticipée. La Russie a bien fourni une liste d'une trentaine d'individus qui ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire. C'est tout de même 100 fois moins que les 3000 Britanniques interdits de venir en France. Sur le terrain samedi, il y avait aussi 10 spotters anglais, ces physionomistes et spécialistes du hooliganisme, contre 4 spotters russes seulement, venus prêter main forte aux forces de l'ordre françaises. Autre raison avancée par les policiers, les rues et les pubs du centre-ville et du Vieux-Port de Marseille sont difficiles à sécuriser, beaucoup plus que des fan zones dont l'accès est très contrôlé. L'alcoolisation des supporters semble aussi avoir joué un rôle très important. Les ventes d'alcool à emporter seront d'ailleurs interdites à l'avenir dans les zones à risque des villes qui accueillent l'euro.
Et depuis le début de la compétition, ces matchs de l'euro font des cartons d'audience devant la télé, notamment des élèves de terminale, à l'image de ce lycéen rencontré par Elodie Messager.
Mercredi 15, il y a la France-Albanie à 21h, j'ai la philo à 8h.
Les épreuves commencent mercredi et Loric a déjà vu 7 matchs. Pour lui, pas question de choisir entre supporter ou réviser.
Le premier jour, le 15 juin, il y a énormément de matchs, il y en a 3. Le lendemain, je commence à 8h, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais ouais, je réviserai entre les matchs. Si vraiment je suis en retard, je réviserai un peu plus le soir après le match. Donc non, quitte à perdre un peu de sommeil, je veux voir l'euro en même temps réviser.
Selon Bertrand Claudon, fondateur de la société Back Post Back Coaching, regarder les matchs de foot est une bonne façon de décompresser, mais il faut bien s'organiser.
C'est tout à fait positif de regarder les matchs de foot pendant les épreuves du bac. Ce qui est important, c'est d'avoir un cadre bien précis. On hiérarchise ses priorités. Première priorité, le bac. Donc réviser entre les matchs, c'est pas du tout bon. C'est mieux en effet avant les matchs. Il faut vraiment avoir un temps pour le bac, un temps pour les matchs.
Et les candidats au bac, fans de foot comme Loric ont tout intérêt à ne pas aller au rattrapage s'ils veulent profiter pleinement de la fin de la compétition.
Reportage d'Elodie Messager et pour les supporters Louis Amar, 3 matchs prometteurs au programme aujourd'hui.
C'est justement Chloé un lundi à se faire porter pâle pour pouvoir regarder le foot. Ça va commencer avec l'entrée en lice du double tenant du titre, l'Espagne face à la République tchèque à 15h. Ça va se poursuivre à 18h avec le retour d'Ibrahimovic au Stade de France pour Suède-Irlande avant le choc du jour Italie-Belgique à 21h. 3 match à suivre en direct sur RMC. Et puis hier, l'Allemagne a écarté l'Ukraine 2-0, la Pologne a battu l'Irlande du Nord 1-0, même score pour la Croatie face à la Turquie. Les Bleus, eux, disputeront mercredi soir leur deuxième match, ça sera face à l'Albanie. Les Bleus toujours emmenés par leur buteur mal aimé, c'est le paradoxe, Olivier Giroud de plus en plus décisif, mais toujours sifflé par une partie des supporters français, Mohamed Bouafsi.
C'est le paradoxe, Olivier Giroud, sifflé pendant la préparation et pourtant toujours aussi efficace. 8 buts lors de ses 8 dernières sélections, le joueur d'Arsenal en est conscient, lui qui aime rappeler son bilan.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Plusieurs personnes qui m'ont dit que j'étais, j'avais tendance à être meilleur dans l'adversité. Donc bon, j'ai pas envie de toujours avoir à me battre contre les médisants.
L'une des raisons de la forme actuelle du buteur des Bleus est liée à un homme. Olivier Giroud est heureux de l'éclosion de Dimitri Payet, son distributeur de passes décisives.
Dimitri est intéressant dans ce rôle-là. Le fait d'avoir un numéro 10 derrière moi, c'est vrai que ça aide.
Mais il n'a pas terminé son apprentissage. L'attaquant des Bleus nous explique qu'il travaille encore psychologiquement.
Je m'en veux toujours autant quand je rate une occasion, mais j'essaie de moins l'extérioriser. En tout cas, c'est un travail que j'essaie de faire là-dessus.
Giroud est désormais le buteur indiscutable de l'équipe de France. Son seul objectif, donner la victoire aux Bleus mercredi contre l'Albanie et qualifier les siens pour les huitièmes de finale de l'Euro.
Le reportage de Mohamed Bouafsi. Enfin, un mot de rugby. Montpellier qualifié pour les demi-finales du top 14 grâce à un succès, 28-9 sur Castres hier en barrage. Le MHR affrontera Toulon samedi prochain. Le quintet de cet après-midi à Compiègne, Sébastien Darras joue l'As Youm et le 4 Mogadiscio. Brahim Asloum préfère le 5 Indicas. Laurent Guédard le 8 Vendôme, le 11 Ravenridge.
Il est 6h41. La violence. Orlando aux États-Unis. Nous allons partir tout de suite pour les États-Unis juste après la pub. La violence à Orlando, attention, prudence, le FBI lui-même est très prudent sur la piste terroriste, c'est ce que nous dira Philippe Gasso. Et puis la violence à Marseille, ce week-end, ça vous a frappé d'ailleurs, ces images de Marseille ont fait le tour du monde. Moi je pose simplement une question ce matin, est-ce que nous avons perdu l'organisation des Jeux en 2024? Il est 6h41, nous allons être à Orlando en direct dans un instant, mais aussi à Londres. Que dit la presse anglaise après les violences de samedi? Tout de suite, vous êtes sur RMC. RMC Découverte, vous ne ratez rien.
RMC, l'info, le matin, c'est là que ça se passe.
Oui, savoir et comprendre, le matin sur RMC, vous voulez que ça bouge. Il est 6h44, le Bataclan américain, titre ce matin, le Sun après la grosse tuerie. Cette tuerie à Orlando, plus de 50 morts, 53 blessés dans la nuit de samedi à dimanche. Un club homosexuel d'Orlando, selon les premiers éléments d'enquête, on vous en parle depuis hier, évidemment, le tireur avait la haine des homosexuels, et puis aussi une sympathie pour l'islamisme radical. Il aurait revendiqué son allégeance à l'État islamique juste avant la tuerie. Philippe Gasso, quelles sont les dernières informations sur le déroulé des événements, Philippe?
Eh bien, les derniers éléments, c'est plutôt Barack Obama qui les a présentés. Le président a parlé cet après-midi pour nous de terrorisme et de haine, sans mentionner l'islamisme radical. C'est ce que dénonce Donald Trump, qui semble vouloir exploiter la situation. L'enquête risque d'être longue, car il faut identifier toutes les victimes de la boîte de nuit, 50 morts, ramasser tous les éléments matériels, et puis entamer les enquêtes de routine, visite de l'appartement, décodage des ordinateurs, passer en revue toutes les relations du jeune homme qui a été tué. On a appris que 20 minutes, vous le disiez, avant l'action, le tueur a appelé le 911, le numéro de téléphone de la police, pour faire allégeance au groupe État islamique, lequel a aussi revendiqué le massacre. L'agresseur avait loué un 4x4, mais il semblait déterminé à mourir en martyr. Il a été abattu par la police.
Que sait-on du tireur? Qui était-il?
Alors, c'était un jeune homme de 29 ans, d'origine afghane. Il est né à New York et il avait, en 2013 et 2014, été questionné par le FBI car il avait été dénoncé pour radicalisation. Les services du bureau d'investigation n'avaient rien trouvé à redire et lui travaillait depuis 9 ans comme un agent de sécurité, et par son statut, eh bien, il pouvait acheter toutes les armes qu'il voulait. Si ce n'était l'intermède du FBI, il paraissait intégré et sans histoire. C'est vrai que sa femme divorcée l'avait dénoncé comme un être violent, mais pas de quoi se méfier. Comme nous diront les enquêteurs américains du FBI ou des services secrets, les services dormants sans histoire, les terroristes dormants sans histoire, ce sont les plus dangereux. Ils ne bougent pas, ils ne voyagent pas, ils sont donc difficilement repérables.
Merci Philippe. Il avait aussi la haine des homosexuels. Aucun lien avec la Syrie, aucun lien avec ce qui se passe au Proche-Orient. L'enquête nous en dira un tout petit peu plus. Il a pu acheter une arme d'assaut, un fusil d'assaut, sans aucun problème. Vous savez qu'aux États-Unis, le débat autour des armes va alimenter encore un petit peu plus la campagne présidentielle. Nous partons maintenant pour la Grande-Bretagne. Parlons de l'Euro 2016, samedi dernier. C'est graves affrontements entre supporters anglais, enfin supporters, entre fans anglais et russes venus pour certains spécialement pour casser des Britanniques en plein cœur de la cité phocéenne, de véritables scènes de guérilla urbaine. Vous avez vu les images, c'est scandaleux d'ailleurs. C'est inadmissible, inadmissible ce genre d'image sur le territoire français. 35 personnes blessées, vous savez qu'un supporter anglais est toujours entre la vie et la mort. Alors, en Grande-Bretagne, que dit-on, Bénédicte Paviot, vous êtes en direct de Londres. Quelles sont encore ce matin les réactions de la presse ?
Eh bien, Jean-Jacques, après les incidents de samedi à Marseille avant, et rappelons-le à la fin du match Angleterre-Russie, un partout, la honte initiale a cédé la place à une vive inquiétude. Ce matin, le journal Le Daily Mail, comme la majorité d'ailleurs des journaux, s'inquiète pour l'équipe d'Angleterre s'il y a de nouveaux affrontements. Pourquoi ? Parce que les journaux comme les médias parlent tous de la menace de l'UEFA de disqualifier l'Angleterre et la Russie de l'Euro en cas de nouvelle violence de leurs supporters. Et ce, alors que les supporters des deux équipes se dirigent désormais vers Lens et Lille pour leurs prochains matchs respectifs jeudi et mercredi. Certains journaux accusent la police française d'employer des méthodes disproportionnées qui aggravent, disent-ils, la situation. Ils soulignent que les forces de l'ordre utilisent des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, des méthodes qui ne sont pas employées ici en Angleterre. Mais la presse, par contre, approuve l'initiative du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui vient d'annoncer l'interdiction des ventes d'alcool dans les périmètres sensibles, les veilles et jours de match de l'Euro et les jours d'ouverture des fan zones.
Comment le gouvernement britannique a-t-il réagi après les incidents de Marseille ? Que propose-t-il ?
Eh bien, le gouvernement de David Cameron a fortement réagi. Il a d'abord fermement condamné les incidents violents survenus samedi à Marseille, entre supporters anglais et russes, et aussi avec la police française. Puis, il a lancé un appel au calme de chaque côté, anglais et russe, et a proposé d'envoyer des policiers supplémentaires pour le prochain match de l'équipe d'Angleterre contre le Pays de Galles, s'il vous plaît, qui aura lieu ce jeudi à Lens. Quant aux Trois Lions, Jean-Jacques, ils affirment, eux, qu'ils ont hâte de jouer la prochaine rencontre.
Merci, Bénédicte Paviot, en direct de Londres. Vos réactions, 3216 rmc.fr. Il est moins 10. Nous sommes avec vous, Géraldine Demory, à Besançon, dans le Doubs.
À Besançon, il n'a fait que 15 degrés au meilleur de la journée hier, des températures quasi automnales, 7 degrés sous les normales et fraîcheur quasi généralisée en France, hein, sauf vers la Méditerranée. Là, en Corse, on est quand même atteint à 31 degrés du côté de Pantelleccia. Et on va se retrouver avec un petit peu le même système pour aujourd'hui, parce que le soleil, ce sera pour la Corse, pour la Côte d'Azur, mais partout ailleurs, un temps gris très agité avec des averses particulièrement fréquentes vers le Massif central et la région Rhône-Alpes. Et donc, on retrouvera toujours cette différence de température. 28 pour Marseille, 20 degrés à Bordeaux, 18 degrés pour Paris.
À suivre sur RMC, le bac approche, mes chers candidats. Oubliez la bonne vieille anti-sèche cachée dans la Manche, d'abord parce que c'est interdit, et ensuite parce qu'Anthony Morel nous a dégoté les méthodes de triche du futur. C'est déjà demain et c'est dans une minute sur RMC.
Bourdin direct, RMC tout en direct. RMC, c'est déjà demain, Anthony Morel.
Anthony Morel est avec nous, bonjour Anthony.
Bonjour Jean-Jacques.
Anthony Morel. On parle beaucoup de l'euro, mais pendant cette semaine d'euro, il y a le bac.
Mais oui, il y en a qui devraient viser.
Oui, oui. Enfin, un minimum. Entre les matchs, quoi.
Entre les matchs.
Entre les matchs pour certains. Racontez-nous d'ailleurs, c'est votre cas, 32-16. Anthony, dernière ligne droite, donc plus que deux jours pour réviser, pour certains, préparer des antisèches à leurs risques et périls. Enfin, moi, je ne conseille pas.
Ah, moi non plus. 5 ans de radiation.
Parce qu'on se trompe, on ne sait pas. Non, mais en plus,
on passe plus de temps à préparer les antisèches qu'à réviser.
Mais on révise en préparant l'antisèche.
Les techniques de triche sont plus connectées que jamais.
Ouais, on est très loin de la feuille pliée en 12, vous savez, qu'on cachait au fond de la trousse, ou toutes les techniques qu'on voyait dans le film Les Sous-doués. On est très loin de tout ça. Aujourd'hui, la triche, on va utiliser les smartphones. Un tiers des cas de fraude au bac, un smartphone est impliqué à chaque fois. On va utiliser aussi des montres intelligentes, des montres connectées. Alors ça aussi, parce que la montre, évidemment, c'est très difficile à détecter. On va pouvoir s'en servir soit pour aller directement sur internet, soit pour enregistrer le cours d'histoire, le cours de philo. On peut même, pour les plus téméraires, prendre en photo la feuille d'examen avec la montre, l'envoyer à un correspondant à l'extérieur et recevoir les résultats quelques minutes après. Donc il y a tous ces... Eh oui, bah oui, c'est ça. Donc il y a toutes ces...
Confiance quand même.
Oh là là.
Il faut avoir un copain copain qui est agrégé de maths, quoi. Derrière. Voilà. Enfin bon, c'est évidemment c'est jouable. Hein. Donc il y a toutes ces techniques là qui sont évidemment à surveiller de près par.
Bon, mais
par
on les distingue ces montres connectées ou pas?
Bah, difficilement quand même, parce que pour le coup, vous regardez discrètement sur le poignet, c'est un petit peu compliqué. Et maintenant, elles sont certaines sont équipées de leur propre carte SIM, c'est-à-dire qu'elles peuvent se connecter directement à Internet.
Que peut faire l'éducation nationale pour lutter contre cette triche?
Mais ils ont mis en place notamment des détecteurs de smartphones, ça il y en a depuis 2 ou 3 ans, mais alors il y en a pas dans toutes les salles d'examen, évidemment, ils misent vraiment sur la peur du gendarme, c'est-à-dire qu'ils sont dans certains centres d'examen, ils disent pas où, ils disent pas combien il y en a, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sont installés, la triche continue. Et puis ce sont juste des détecteurs, hein. Ce sont pas des brouilleurs, donc on peut pas encore brouiller les fréquences des smartphones.
La calculatrice aussi, qui s'est transformée au fil des années en ordinateur de poche.
Ah bah c'est ça, c'est-à-dire que la calculatrice, vous avez les bonnes vieilles, les calculatrices programmables, où on peut intégrer la totalité de son cours de maths directement dans la calculatrice.
Donc l'examinateur doit être un as des nouvelles. Il faut vous envoyer dans une salle
d'examen. Exactement. Bah, c'est ça. Moi, Anthony, je peux aller expertiser. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est quand même. Il va y avoir du changement parce qu'à partir de 2018, ces calculatrices programmables, elles seront interdites ou alors elles devront être munies d'un ce qu'on appelle un mode examen, c'est-à-dire un mode où en appuyant sur un bouton, on va bloquer l'accès
parce
à la mémoire.
Avec cette calculatrice, on peut faire quoi?
Ah bah, on peut enregistrer l'intégralité de son cours de maths à l'intérieur de la calculatrice et donc avoir accès à toutes ses formules, à l'intégralité du cours. Mais la spécificité quand même de cette calculatrice-là, regardez, là j'ai un mode examen, c'est-à-dire j'ai appuyé le mode examen et donc il y a une petite diode verte qui s'allume et qui s'éteint. Et ça va montrer à l'examinateur que en fait je suis en mode examen et donc que je ne peux pas tricher, je n'ai plus accès à toute la partie mémoire de la calculatrice. Ce sera obligatoire à partir de 2018. Donc les tricheurs peuvent encore en profiter cette année.
Et parlons aussi des oreillettes discrètes qui permettent de communiquer avec l'extérieur.
Exactement. Alors moi j'ai fait mes petites recherches sur internet, vous tapez kit espion, vous trouvez des petites oreillettes comme celles qu'on a nous à la télé qui sont extrêmement discrètes, qu'on ne voit absolument pas de l'extérieur. Bah oui, Charles,
on
triche nous aussi. Eh bien, on va pouvoir s'en servir là encore pour communiquer avec l'extérieur. Et alors là, bon courage pour aller détecter ça pour un examinateur, c'est vraiment minuscule.
Ouais, minuscule. Il est 6h57, chaque examinateur ne va pas aller inspecter l'oreille de chaque candidat.
La calculatrice, l'oreille.
Ça prend un peu de temps. Claude est en Seine-Maritime. Bonjour Claude.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Vous allez bien, mon cher Claude?
Ben, ça va Jean-Jacques.
Vous regardez la télé, vous écoutez la radio?
Voilà, tout à fait. Je vous regarde, là, j'écoute la radio et je vous regarde tout à l'heure sur RMC là.
Bon, eh ben c'est génial. RMC Découverte, le canal 24 de la TNT, je vous le rappelle. Voilà. Ici, il y a une bonne ambiance, on vous donne les infos et vous avez les images. Il est 6h58. Claude, vous avez gagné la machine à café et les capsules qui vont avec. J'en suis très heureux.
Jean-Jacques.
Vous êtes à quel endroit en Seine-Maritime, Claude?
À Oissel, pas loin de Rouen.
Pas loin de Rouen. Eh bien, merci de nous écouter, d'être avec nous, de nous regarder le matin.
Claude. Merci à vous et puis continuez comme ça.
On va continuer, ne vous inquiétez pas Claude. Merci à vous. Merci. Au revoir. Il est 6h58.
À suivre sur RMC, la police était-elle correctement préparée à accueillir les Russes et les Anglais à Marseille? Comment éviter de nouvelles violences? Le délégué Alliance CRS de Marseille est en direct sur RMC juste après le journal de 7h.
Bourdin direct, RMC tout en direct.